Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le jeu de la rencontre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Emmanuel est dans le bureau de son médecin. Un bureau qui ressemble à un bureau de ministre. La pièce se trouve dans un vieil immeuble du 19e avec des fenêtres qui donnent sur les arbres du parc de la Tête d'Or. Meubles Louis XV, tapis sur le parquet. Le médecin, un homme de 50 ans, grand, mince, cheveux et barbe grise, petites lunettes à monture dorée, porte un costume marine. Le médecin lui demande « Comment allez-vous ? » « J'ai toujours mes insomnies, docteur. »
« Et vos, disons, délires ?»«
Cela va un peu mieux. »
« Vous ne faites pas de bêtises, au moins ?»«
Non. »
« Bien. Il faut apprendre à vous dominer. »
Le téléphone a sonné.
Allô? Oui, je les ai. Attendez, je vais voir.
Il pose le téléphone sans raccrocher et se lève.
Et dit, j'en ai pour une seconde.
Et il sort de la pièce. Emmanuel se soulève et prend du dessus du bureau une pile d'ordonnances et de papiers pour la sécurité sociale. Qu'il met dans la poche de sa veste. C'est le médecin qui est revenu s'asseoir à son bureau. Il répond au téléphone.
Oui, je les ai reçus. Je vous les envoie aujourd'hui même. Au revoir, monsieur.
Puis, regarde bien Emmanuel et lui dit.
Vous êtes sûr que vous n'aimeriez pas entrer dans une clinique ?
Oui. Le médecin soupire et dit.
Je fais cela ? Pour la mémoire de votre père, il faut me promettre d'être sage.
Je vous le promets.
Bien, je vais vous faire une ordonnance, quelque tranquillisant. Faites du sport si vous avez envie de certaines choses. Prenez une bonne douche. Deux heures plus tard, Emmanuel entre dans une pharmacie et donne deux ordonnances. Le pharmacien les regarde et dit « Tout ça à la fois ? C'est-à-dire que je pars à l'étranger. » Le médecin lui prépare ses médicaments. En notant sur un cahier l'adresse, le nom d'Emmanuel et celui du médecin. En les lui tendant, il lui dit « Faites attention. » J'oublie bien les prescriptions du médecin. C'est dangereux. Denis est tout excité et fait les 100 pas dans le salon. Il est de plus en plus amoureux de Chantal et souhaiterait lui demander de vivre avec lui. Mais il y a Emmanuel. Il faut qu'il parte. Lorsqu'il entend ouvrir la porte, il va vers lui. « J'ai à te parler. Viens. » Et il l'amène au salon. Denis lui dit « Assieds-toi. » Emmanuel va s'asseoir sur un fauteuil. Et Denis reste debout. Il lui dit « Écoute, Emmanuel, j'aimerais que tu retournes chez toi. J'ai besoin d'être seul. » Emmanuel rougit et dit « Je ne peux pas te quitter. Je t'aime et sans toi je ferai encore plus de bêtises, comme lorsque Sophie a voulu me quitter. » Denis se baisse vers Emmanuel et lui dit « Mais Emmanuel, je ne veux pas vivre indéfiniment avec toi. Je ne t'aime pas, tu comprends ? Je t'aime bien, c'est tout. Je veux vivre ma vie. » Emmanuel lui dit, « Moi tout seul, c'est fini. Garde-moi un peu, après je partirai. Il faut que je supporte la vie qui m'attend. » Denis lui dit, « Bon, bien, mais ne sois pas triste. De toute façon, une fois que tu seras parti de chez moi, on se reverra tout de même, mais nous ne vivrons plus ensemble. » Emmanuel se dit que plus le temps passe, moins il osera le faire partir. Il a besoin de Denis, de l'aimer, comme pour sortir de ses cauchemars.
Thank you.
Manuel a gardé sa voiture en face de la caserne de la vitriolerie. Il sort de voiture et va vers la sortie de la caserne. Là, lorsqu'un jeune sort, il essaye de leur parler. « Salut, ça va? Tu connais Lyon? Excuse-moi, mais on m'attend. » Il reste ainsi une demi-heure à essayer de sympathiser. Puis, un jeune sort. Il est petit, blond, cheveux courts, bien entendu, visage poupon, habillé d'un blouson de cuir noir et d'un jean. Il marche plus lentement que les autres. Manuel le suit et l'accoste. « Salut, tu es en Perme ?»« Oui. »« Oh, c'est bien. Tu connais Lyon ?»« Un peu, oui. » Emmanuel lui dit. « Moi aussi un peu. Je suis seul. » Je ne sais pas quoi faire. Tu viens boire un verre ? Le jeune réfléchit, hausse ses épaules et dit « Oui, je veux bien. Moi, c'est Emmanuel. Moi, Cyril. Viens, ma voiture est là-bas. » Et ils y vont. Pendant qu'Emmanuel est à ses cours, Denis a invité Chantal chez lui. Elle a accepté car elle a confiance en lui. Il l'a fait entrer chez lui. Il lui montre l'appartement et va la faire asseoir au salon. Lui offre un jus de tomate. Elle lui dit « C'est bien chez toi. Je suis heureux que cela te plaise. » Il a mis un disque, l'a fait danser. En dansant, il sent contre lui ce corps si doux, si tendre, cette odeur si merveilleuse. Il aimerait toujours être contre elle, toujours.
Mais tous les
après avoir dansé, ils vont s'asseoir l'un à côté de l'autre. Assis sur le canapé, il l'embrasse. Elle se laisse faire. Les mains de Denis ont envie de tout toucher, surtout ses petits seins. Après le baiser, ils sont restés enlacés. Il lui dit « Je t'aime, Chantal, et veux vivre avec toi. » Elle lui dit « Moi aussi, mais il faut que tu fasses partir ton ami. Il le faut. » Le soir, lorsqu'Emmanuel arrive, Denis est décidé. Dès qu'il arrive, il lui dit « J'ai à te parler. » Ils vont au salon. Denis dit « Voilà, cela fait des mois que tu es avec moi. C'était très bien, mais cela suffit. J'ai besoin de vivre seul. Je te demande de me quitter, de partir. » Emmanuel le regarde et lui dit « Tu es un vieux salopard, faire partir comme ça. » « Oh, je t'en prie, Emmanuel. Je t'ai tout de même gardé plusieurs mois. Tu m'as demandé de venir passer quelques jours avec moi. Maintenant, c'est fait. Et tu t'en vas gentiment. »
« Fumier, tu étais tout de même content de m'avoir. Moi qui t'ai rendu service. » En allant à la police pour dire que tu étais innocent du meurtre de Sophie.
Denis voit rouge. Il se dit qu'il va le faire chanter.
Je te remercie pour ce que tu as fait, mais ce n'est pas une raison pour que tu t'imposes. Ce serait du chantage. Alors tu vas partir de suite.
Si tu veux qu'on se quitte, bons amis, et que l'on se revoit plus tard. » Emmanuel lui dit
« Tu me laisses tomber, malgré ce que je t'ai dit, que je ne pourrais vivre sans ton aide ?»
Denis lui dit « Arrête tes gamineries. Après le chantage, c'est l'affection. Ne te dégrade pas. Ne dégrade pas notre amitié ainsi. Tu dois partir. »
Emmanuel se met à crier « Bien, je pars. Tant pis pour nous. »
Et il quitte la pièce. Emmanuel est dans la chambre de Denis où se trouvent les vêtements dans l'armoire. La valise est sur le lit, l'armoire ouverte. Il remplit sa valise dans un silence pesant. Denis est dans le salon, assis dans un fauteuil qui fait face à la fenêtre. Il ne bouge pas. La porte s'est ouverte. Denis ne bouge pas. C'est Emmanuel, habillé. Sa valise, il la pose près de la porte. Il s'approche de Denis par derrière. Denis ne réagit pas. Cela fait mal à Emmanuel. Cela fait mal à Emmanuel. Tout à coup, d'un geste brusque, Emmanuel lui enfonce une seringue dans le cou. Cri bref, et il s'affaisse dans le fauteuil. Emmanuel lui retire la seringue, se penche vers lui, l'embrasse sur les lèvres, lui caresse ses cheveux, lui touche le pouls et sort de la pièce en prenant sa valise. Dehors, il a pris sa voiture et file. Il tremble de tout son corps, mais reste froid et maître de lui-même. Rien ne peut l'arrêter. Rien. Garé sa voiture près de la gare de Perrache. Sort de voiture en laissant ses bagages. Entre dans la gare. Regarde cette foule dense. Marche, s'arrête, regarde. Vois un jeune, grand, mince, brun. Les cheveux mi-longs. Il porte un manteau gris anthracite. Un jean et des bottines noires, à ses pieds une valise, qui semble s'ennuyer ferme. Emmanuel hésite, tourne autour, puis s'assoit côté de lui. Il a chaud, des bourdonnements d'oreilles, le corps qui bat, mais la rupture avec Denis, comme si c'était avec le monde, le rend totalement libre. Il n'a plus la tâche, avenir, rien. Comme pour sa sœur, c'est la même chose que comme pour sa sœur. June le regarde, Emmanuel lui sourit et lui dit « C'est long ? Oui, vous allez loin, Perpignan. Je suis venu pour mes 3 jours. » Vous êtes pris ? Oui, Elors. Bientôt, on va me couper les cheveux. Votre train est dans combien de temps ? 2 heures. Pourquoi attendre ici ? Dit Emmanuel. C'est dire que je ne connais pas la ville. Moi, si vous voulez, on va boire un verre. Et on revient ? Oui, je veux bien. Et ils sortent de la gare. La voiture est ici. Il l'a mené au café. Il a fait bien boire et ont discuté des filles. Le jeune qui n'avait pas l'habitude de boire a perdu la notion du temps. Puis ils sont allés au restaurant et ont bien mangé et bu. À la sortie du restaurant, Emmanuel lui dit « Passe un moment chez moi si tu veux. »« Oui, mais... et mon train ?»« Tu l'auras, ne t'en fais pas. »« Juste le temps de boire un dernier verre. » Le jeune est à moitié ivre. Emmanuel a arrêté sa voiture dans une rue déserte. Il se sent sûr de lui, mais cela ne l'empêche pas son corps de battre très fort et d'avoir chaud. Il a bu, mais pas suffisamment pour être ivre. Il sort de voiture. Pas de bruit dans la rue. Il y fait sombre, un vieux réverbère l'éclaire à peine. Le jeune demande « Où on est ?»« On est arrivé. » Emmanuel prend des clés de la poche de sa gabardine et va ouvrir la porte d'un vieil immeuble. Lorsqu'ils entrent dans l'allée, ça sent le renfermer. La minuterie marche encore malgré le bouton en mauvais état. Les boîtes aux lettres dépareillées, éventrées, pour la plupart, sont bourrées de prospectus. Ce n'est pas drôle chez toi. Viens, on monte, c'est au premier. Ils prennent les escaliers. Et sur le palier, Emmanuel va ouvrir une porte. Éclaire une ampoule au plafonnier, pièce nue, matelas à terre, coffre en bois. La lumière n'éclaire pas assez, l'on ne peut voir les murs qui doivent être sales. C'est ici que tu habites ? Oui, assieds-toi sur le matelas. Le jeune va s'asseoir sur le matelas. Emmanuel lui dit « Je vais te chercher à boire. » Il va vers un coffre, l'ouvre pour prendre une bouteille et un verre. Et il va y déposer au pied du jeune. Puis s'assoit à côté de lui et le serre. Le jeune lui dit « Tu ne bois pas ? Non, plus tard, mais bois-toi. » Le jeune boit. C'est drôle chez toi. Emmanuel sourit et lui dit. Tu crois? Oui. Pourtant ma vie n'est pas très drôle. Elle reflète cette pièce, vide et sombre. Je vis un peu comme un rat. Je vis au milieu des gens et en même temps caché. Le jeune lui dit. C'est triste. Oui, c'est triste, mais ça permet d'avoir des sensations que personne ne peut comprendre. Mais bois donc. Tu m'aimes mélancolique. Le jeune boit. Emmanuel est agacé. Il ne veut pas être distrait par des idées idiotes. Il a sommeil. Il se dit qu'il ne faut pas. Mais ses mains tremblent. Son corps bat. Puis il voit le jeune. Puis il en a besoin. Un besoin irrésistible. Le jeune s'est endormi. Emmanuel se réveille ou se dédouble. Ses yeux ont changé, ils sont froids, un regard fixe qui fait peur. Il ne peut pas penser, il n'est plus lui, il est. Il se penche devant le jeune profondément endormi, allongé de travers sur le matelas. Il caresse ce visage, c'est doux un visage, c'est beau. Il caresse ses cheveux, les cheveux fins et délicats. En touchant le jeune, Emmanuel semble planer. Il déboutonne sa chemise, une peau lisse et douce. Il descend son pantalon, c'est difficile, vu que l'autre ne réagit pas. De belles jambes lisses et fines. Emmanuel a chaud. Temps de 13h. Il descend le slip. Un slip qui montre un sexe qui dort. Quelques poils. Il le caresse de partout. Il donne des baisers. Il est en sueur. Le jeune dort. Il ne se rend pas compte, il est insensible. Emmanuel est en sueur, comme dédoublé. Il le caresse, caresse le sexe d'Emmanuel, bande fort, très fort, tremblant. Il a joui en caressant le jeune. Puis, Emmanuel ressent une grande douleur dans la poitrine. La fatigue, le cafard, puis... Il a comme de la haine. Regarde le dormant méchamment. Il fait les poches de son pantalon et de son blouson. Prend le portefeuille qu'il met dans sa poche. Puis, rhabille le jeune comme il peut. Et, comme s'il avait honte de cette nullité qui lui a apporté tant de plaisir. Se relève. Il est en sueur, range ses vêtements et ses cheveux. Il prend la bouteille et le verre pour y mettre dans le coffre. Il retourne vers le jeune et dit avec dégoût, il est comme les autres, meurt. Demain je cacherai le corps. Puis, il se dirige vers la sortie de la pièce. Avoir fermé la porte à clé de l'appartement, il descend les escaliers. Arrivé en bas, il va ouvrir la porte. Il ne peut l'ouvrir. Merde ! Il pousse, cogne. Essaye avec ses clés. Rien à faire. Il a oublié que la porte ne peut s'ouvrir que de l'extérieur, puisque le mur est condamné. Il aurait dû, comme il le fait d'habitude, laisser la porte ouverte et, pour éviter qu'elle ne se ferme, fermer la serrure sans qu'elle aille dans son trou. Puisqu'il ne sait que faire, il court dans le rez-de-chaussée voir s'il n'y a pas une issue. Mais non, rien. Merde, je vais me faire passer comme un rat avec le cadavre. Il monte au premier, retourné dans la pièce. Où il y a le cadavre. Il faut rentrer, il a fermé la porte derrière lui et court vers une fenêtre qui est condamnée avec des planches. Il cogne dessus. Il n'y arrive pas. Regarde autour de lui, dans la pièce, voit que le coffre a une barre de fer pour le fermer. Il court la chercher. Arrivé vers la fenêtre, avec la barre et beaucoup de peine, il a réussi à décondamner la fenêtre. Il regarde dehors. Il est au premier, cela donne dans la rue. Pas bien loin de la fenêtre, il y a un tuyau en zinc pour l'eau. Il monte sur le rebord de la fenêtre. D'une main, il se tient au tuyau. De l'autre main, maintenant, il a les deux mains qui sont sur le tuyau, et, en fermant les yeux, il se lâche. Il a réussi à se tenir au tuyau. Puis, heureusement, il n'est pas complètement collé au mur. Il a un peu peur du vide. Mais, comme il n'est pas collé au mur, ses mains peuvent entourer le tuyau. Là, en sueur, tremblant, il descend tout doucement, puis, au bout d'un moment, il sent ses pieds sur le sol. Il n'y croit pas. Une fois en bas, il court vers sa voiture. En tremblant, En sueur. Une fois dans la voiture, tremblant, en sueur, sur sa poche, un tube de comprimé, il en prend deux, qu'il met dans sa bouche. Souffle, se détend, et s'endort. Il se réveille comme un somnambule, il met sa voiture en marche. Il va ouvrir la porte de l'appartement. Comme un somnambule, il va se coucher dans le lit de Denis, puisque Denis est au salon. Et il dort d'une traite noire. Réveillé par des bruits, des cris, il se demande ce que c'est. Mal réveillé, il se lève pour aller voir. Et par la porte qui donne directement au salon, là, il voit un homme, deux femmes, une jeune fille qui crie et qui regarde Denis mort sur un fauteuil. Emmanuel s'avance. Les gens le regardent surpris. La fille qui crie dit « Je suis entré, j'avais les clés. Denis et moi devions vivre ensemble. Et je le vois mort, c'est terrible. » Emmanuel voit que tout le monde s'approche de la pauvre jeune fille et veut en profiter pour s'éclipser. Il s'avance vers la sortie qui donne dans le couloir. Mais, juste au moment où il va franchir la porte, un homme gros et fort se met entre la porte et lui. Il lui demande « Qui êtes-vous, monsieur ?»«
Je suis... »«
Que faites-vous ?» Ici.
C'est-à-dire que je suis passé, je suis un ami du mort et
je vous ai vu rentrer du salon par l'autre porte, ce qui veut dire que vous étiez dans l'appartement. Expliquez-vous.
C'est-à-dire que Manuel a la tête embrouillée avec tout ce qui s'est passé hier. Il est incapable de trouver des explications. Il en a assez et fait le geste de partir. L'homme veut l'empêcher, les autres s'approchent.
Le seul à la porte, la fille va ouvrir. C'est la police. Deux policiers en uniforme. On leur manque le corps. Et on leur dit qu'Emmanuel allait s'en aller. Le policier demande « Qui êtes-vous ?»«
Un ami de la victime. »«
Que faites-vous ici ?»«
Je passais. »
L'homme fort leur dit « C'est faux. Il était déjà dans l'appartement lorsqu'on est arrivé. » Le policier « Vos papiers. » Emmanuel les lui donne. Un autre policier le fouille. Il trouve dans ses poches un portefeuille ne lui appartenant pas, une seringue et plein de médicaments. Six mois plus tard, il a été considéré comme malade mental. On l'a mis dans une maison. Il a tué en état de dédoublement de personnalité. Donc, on ne peut le condamner. Il s'est bien tenu, comportement exemplaire, responsabilité de la bibliothèque, cinémathèque, propre, pas de problème de discipline. Il a été traité avec des
également une thérapeutique psychologique et, vu son comportement exemplaire, considéré comme guéri, sorti de la maison de santé au bout d'un an. Son oncle, qui n'a jamais cru à sa culpabilité et pensé à une machination, a continué à fructifier son capital. Il a retrouvé son appartement comme il l'avait laissé, ne travaille pas, a arrêté ses médicaments. Et 2 mois plus tard, sa voiture est arrêtée devant la gare de Perrache. Il a été bien sage tous ces mois pour retrouver ses sensations. Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le jeu de la rencontre, dont c'était la 3e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement,